Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bon réveil sur BPM. Il est 8h03. Bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous du Mantois que nous proposons chaque semaine le vendredi à 8h en direct. Aujourd'hui, nous sommes à Rosny-sur-Seine et nous sommes reçus par le maire Pierre-Yves Dumoulin. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et aux auditeurs de BPM.
Merci de nous accueillir. Avec vous, nous parlerons de l'impact de la situation sanitaire pour la commune, notamment concernant les écoles. Nous reviendrons sur les comités de quartier que la ville a menés dernièrement. Et puis, nous détaillerons les principaux projets prévus à Rosny-sur-Seine. On commence donc par la crise sanitaire. Après 4 semaines de reprise, quelle est la situation dans les écoles et comment les enseignants ont-ils appréhendé les protocoles sanitaires ?
Alors, la situation sanitaire s'arrange, comme partout en France d'ailleurs. On l'entend de façon plus importante aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que la vague Omicron est un tout petit peu derrière nous. On est sur un plateau descendant. Alors on a été touché, comme la plupart des communes françaises probablement, par une vague violente, importante, mais peu grave. C'est-à-dire qu'on a eu, et heureusement, à la fois chez nos enseignants, nos enfants et nos habitants, peu de formes graves d'Omicron. À ma connaissance, autant sur les vagues précédentes, on a eu des Rhônéens hospitalisés. On a eu, mais hélas, quelques décès à déplorer lors des premières vagues en 2020. Là, on a, je dirais, une vague qui a été, d'un point de vue sanitaire, bien contenue et bien maîtrisée par les services de santé. Alors, pour répondre à votre question sur le protocole sanitaire dans les écoles, j'ai fait partie des maires qui ont signé une tribune pour dénoncer ce protocole sanitaire. Non pas, enfin, je suis professionnel de santé, donc évidemment, je suis sensible à ces questions-là. Simplement, évidemment, les protocoles qui vous sont donnés, un peu en catimini la veille au soir, avec une demande de l'appliquer dès le lendemain matin, avec des situations ubuesques, avec des tests, etc., multipliés, une incapacité des services de santé à les réaliser, avec des files d'attente en plein froid. Voilà, donc j'ai considéré que c'était pas la bonne façon de procéder, tant au niveau, psychologique pour nos enfants qu'au niveau sanitaire. Donc j'ai signé cette tribune qui demandait simplement un peu de bon sens, auquel le Premier ministre et puis le ministre de la Santé ont été sensibles, puisqu'ils ont petit à petit adapté ce protocole sanitaire qui, au départ, sur cette quatrième vague, était à la fois ridicule et inapplicable. Voilà. Alors, on a eu aujourd'hui la situation. Alors, j'étais hier dans les écoles puisque j'ai assuré le service minimum de cantine, puisqu'on avait une grève de la fonction publique et donc on avait les effectifs de la mairie qui ne nous permettait pas d'assurer le service sans la présence des élus. Et j'ai pu constater, en discutant avec les enseignants, les enfants et quelques parents d'élèves, que la situation était en train de s'arranger. Voilà, faut souhaiter que cette vague Omicron sonne la fin de cette pandémie, même si il semblerait qu'on ait à vivre avec le coronavirus pendant de nombreuses années. Voilà, je pense qu'on a eu probablement des excès de zèle de l'administration en nous imposant des protocoles sanitaires qui étaient inapplicables pour les enfants. Il est difficile pour un enfant de maternelle à porter un masque, et là il est difficile de ne pas avoir des gestes de toucher, des gestes d'affection avec ses enseignants, avec ses camarades. Donc évidemment, je pense qu'il fallait sans doute un peu de bon sens qui est un peu oublié parfois à Paris. Voilà, mais aujourd'hui je suis assez optimiste et je suis heureux parce qu'on a traversé cette quatrième vague à Rosny comme en France, je dirais, de façon assez sans dommage important sur la population.
Et puis on rappelle, hein, mercredi prochain, il y aura la fin de l'application des jauges dans les établissements accueillant un public assis, et puis également la fin du port du masque obligatoire en extérieur. Et puis actuellement, vous avez de nouveau installé le box de dépistage Covid-19 sur le parking de la mairie. C'est nécessaire d'avoir ce service de proximité ?
Oui, c'est nécessaire parce qu'on a peu de professionnels de santé sur la commune, comme dans beaucoup de petites villes. On a donc une pharmacie, on on a des infirmières, mais elles étaient un peu, voilà, elles avaient besoin d'aide, parce que nos infirmières réalisaient ces tests, mais c'est vrai que elles étaient un peu débordées, compte tenu du nombre de tests qui sont réalisés tous les jours en France. Hein. On a eu jusqu'à 500 000 cas positifs, donc autant dire qu'on avait plusieurs millions de tests à effectuer tous les jours, et donc on comprend vite que les dispositions habituelles ne pouvaient pas répondre à la demande. Donc cette box, on l'avait déjà fait venir à l'Oxamed l'année dernière, elle avait eu un certain succès, même si on testait beaucoup moins à l'époque, et là on a des files d'attente, vous le verrez sans doute en partant. On a, voilà, donc elle est beaucoup utilisée par les Rhônéens, peut-être même au-delà, et c'est un service qui est important pour nous. Alors on a eu aussi une demande des Rhônéens pour la vaccination, donc nos généralistes, on a la chance encore d'avoir 6 généralistes sur la commune, ces 6 généralistes pratiquent la vaccination. Mais on avait une demande de la population, bon, qui allait tout naturellement au hall 5, hein, à Mantes-la-Jolie, pour la vaccination de masse. Voilà. L'ARS souhaitait regrouper la vaccination de masse que sur un site sur le Mantouac, et donc c'était tout naturellement Mantes. La ville de Magnanville, je crois savoir, va reprendre le centre de vaccination. Mais je dirais que cette vaccination de masse est un peu derrière nous, puisqu'aujourd'hui la plupart des Français sont vaccinés, il leur appartient simplement de faire un rappel, et je pense que, on va dire, la médecine de ville est tout à fait en capacité d'absorber. Je pense que petit à petit ces vaccinodromes vont disparaître, et de toute façon le sous-préfet nous avait bien fait comprendre que dans le Mantois il n'y aurait qu'un centre important, et à l'époque j'avais considéré que Mantes était quand même le meilleur lieu, et puis surtout la plus grande ville, donc il était naturel que ce soit la ville de Mantes.
On va revenir maintenant sur ce qui s'est passé dernièrement à Rosny-sur-Seine. Durant les mois de novembre et décembre 2021, la mairie a organisé ses comités de quartier. Quels sont les objectifs de ces réunions ?
Alors, les comités de quartier ont pour objectif principal de faire remonter les besoins, les desiderata des habitants au plus près de leurs préoccupations. On nous reproche souvent d'être un peu éloigné, en fait, des habitants, même un maire. Hein, ça paraît un peu paradoxal, parce que souvent on a plutôt une bonne image de proximité. Voilà, donc on n'avait pas sur Rosny ces comités de quartier. Je pense que c'est un bon mode de fonctionnement. Ça permet d'avoir des échanges assez libres avec la population à certaines occasions. Ça permet aussi aux habitants de faire part de leurs souhaits, de leurs envies, et puis de râler. Râler, parce que souvent un comité de quartier, c'est un lieu où les gens râlent. Mais c'est important pour nous de savoir prendre la température, et puis de savoir si ce qu'on fait est adapté et correspond vraiment aux attentes des Rhônéens. Alors on a un programme quand on se présente, qu'on tient, hein, qu'on respecte, on en parlera plus tard, mais évidemment il faut savoir s'adapter, il faut savoir aussi écouter. Voilà, donc ces comités de quartier ont été mis en place, donc on a 3 comités de quartier sur la commune qui correspondent aux quartiers historiques, hein, les Baronnes, la Justice et le Centre-Ville. On a rencontré un certain succès, même si on a été heurté pour le dernier à la crise sanitaire. Donc on a eu un peu moins de public que ce qu'on avait imaginé. Voilà, je pense que c'est pour moi, comme maire, un bon moyen de ressentir et d'écouter ma population.
Toujours en fin d'année dernière, vous avez lancé des achats groupés autour de 2 produits, à savoir l'énergie renouvelable et les vélos électriques. Alors, l'opération s'est étendue entre novembre et décembre. Pourquoi la mairie a-t-elle lancé cette initiative ?
Alors, j'ai lancé cette initiative parce que ça fait partie un peu des initiatives qu'on rencontre de plus en plus de coopération entre habitants, et puis aussi parce que l'énergie, évidemment, c'est un secret pour personne qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet avec une flambée des prix de l'énergie au niveau mondial. Alors il y a eu à l'époque, le gouvernement ne s'était pas réellement positionné sur le pouvoir d'achat et le fait de protéger les Français. Bon, aujourd'hui on sait qu'il y a un bouclier, hein, à travers les 4% qu'on a imposé à EDF d'augmentation du prix de l'énergie, mais à l'époque on ne savait pas trop où on allait aller. On parlait d'augmentation sensible du prix de l'énergie, et c'est vrai qu'en regroupant un certain nombre d'habitants, on peut, vis-à-vis de certains fournisseurs, obtenir des remises substantielles, et il en est de même pour les vélos, où évidemment quand vous êtes sans acheteur de vélo, vous allez évidemment bénéficier de conditions commerciales un peu différentes que si vous êtes seul. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai pas encore tout à fait les retours, puisque la société, enfin la jeune start-up qui s'occupe de ça, est en train de négocier les tarifs, et en particulier sur les vélos. Pour l'énergie, ils rencontrent des difficultés parce que le marché est tendu en ce moment, et donc autant avec un marché un peu atone et plat au niveau du prix, je pense que la négociation est assez facile. Actuellement, on comprend facilement qu'avec la flambée du prix de l'énergie, obtenir des remises supplémentaires est assez difficile. Donc, pour être tout à fait sincère avec les auditeurs, on peut considérer que pour l'énergie, aujourd'hui, c'est pas très, on n'a pas vraiment un retour favorable, mais c'est dû au contexte très particulier de la flambée de l'énergie. Je pense que dans une période un peu plus calme, probablement que ce système de collaboratif trouvera tout son intérêt. Ça se fait aussi sur l'assurantiel. On propose parfois dans certaines communes des assurances groupées. Voilà, je pense que c'est à tenter. Pour l'énergie, je suis assez dubitatif, mais c'est dû au contexte. Pour les vélos, on commence à avoir... ils ont entrepris une négociation auprès des fournisseurs. Et c'est pareil, les vélos électriques, aujourd'hui, on a un souci, c'est qu'on ne les fabrique pas assez vite qu'ils ne sont vendus. Et on a donc des délais d'attente de livraison de vélos qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mois, voire années. Et donc, évidemment, négocier dans ce contexte de surachat de vélos, c'est moins simple que... Voilà, donc on a... Peut-être cette opération a été lancée au plus mauvais moment, puisque ça correspond à un moment où on est en tension et qu'évidemment les vendeurs n'ont pas forcément besoin de vendre beaucoup et donc sont pas toujours sensibles à l'achat groupé.
On aborde à présent les futurs projets prévus à Rosny-sur-Seine. On va parler du programme national Petite Ville de Demain, qui a été lancé fin 2020 par l'État. Ce programme accompagne les communes de moins de 20 000 habitants pour des projets de revitalisation. Rosny-sur-Seine fait partie des communes du territoire qui ont été retenues. À quoi va vous servir ce programme ?
Alors, je vais peut-être profiter du micro pour pousser un petit coup de gueule, parce que l'État a l'art et la manière de présenter des sujets et n'est pas toujours capable de dérouler les projets, ou en tout cas d'arriver à mettre en place les promesses que l'État donne. Je m'explique. Petite Ville de Demain, c'est probablement un très beau dispositif. C'est un dispositif qui regroupe à la fois un diagnostic sur les difficultés que rencontre une petite commune comme les nôtres, et puis propose des solutions, des pistes pour développer l'habitat insalubre, du commerce supplémentaire, de l'activité économique, du mieux vivre ensemble, parfois aussi une prise en considération du développement durable à travers l'habitat, les parcs, etc. Donc ça, c'est la promesse. Alors, il y a différents dispositifs, et puis on s'aperçoit que l'État balbutie cette démarche, et que on rencontre aujourd'hui, alors que nous étions prêts, parce qu'on a un projet de ville assez cohérent, qu'on a mis plusieurs années à analyser, mais aujourd'hui on est vraiment dans la phase opérationnelle de Rosny, je dirais, dans 20 ans, parce que le projet et donc l'État là rencontre des difficultés à nous proposer une assistante, une aide, voire parfois même de l'argent. Alors, on a des échanges un peu musclés avec l'État, mais je désespère pas, parce que je pense que sur le fond, le diagnostic a été bien posé. Il nous faut nous intéresser non pas qu'aux quartiers de politique de la ville, mais aussi aux petites villes comme les miennes, où il doit faire mieux vivre. Le dispositif, la promesse du dispositif est une bonne promesse. Il y a des difficultés de mise en place. C'est au maire aussi comme moi de faire remonter les difficultés à l'État, au préfet. On a des échanges, de bons échanges, mais voilà, dans la réalisation aujourd'hui, je suis un peu déçu. Je n'arrive pas à lever des fonds pour certaines études qui me semblent indispensables. Je n'arrive pas non plus à faire porter par l'État et les différents financeurs certains de nos projets qui pourtant rentrent typiquement dans le cadre de Petite Ville de Demain. Mais mon petit doigt m'a dit, pour en avoir parlé avec certains de mes collègues de villes plus grandes que Action Cœur de Ville, qui est le dispositif à l'échelle supérieure pour des villes plus grandes, c'est pareil, les maires rencontrent aussi des difficultés sur leur commerce, sur l'habitat insalubre. Voilà, donc on a toujours le décalage entre le discours et la réalisation, mais c'est bien là où les maires et les collectivités locales sont importantes, parce qu'on doit ramener sur terre, je dirais, l'État. Mais la volonté est là, de l'État, avec des maladresses et puis voilà, notre détermination élus locaux à réaliser. Voilà, et je pense que à travers les copiles qu'on a régulièrement avec l'État, on va y arriver.
Il nous reste 5 minutes pour aborder les autres projets qui sont attendus prochainement dans la commune. D'abord, la réhabilitation du groupe scolaire Les Baronnes. Qu'est-ce qui est prévu concrètement ?
Alors, on avait une réunion hier avec l'architecte, donc les parents d'élèves. On a un comité de travail qui regroupe les directeurs d'école, les parents. C'est peut-être une spécificité puisque le projet est vraiment piloté par la commune, évidemment par les élus, mais aussi par les parents d'élèves et nos enseignants. Donc on a prévu une extension à travers une cantine, et puis sur les surfaces qu'on gagne en déplaçant la cantine, on crée des classes supplémentaires. À l'école maternelle, 3 classes. À l'école élémentaire, on crée un bloc de 4 classes supplémentaires. Donc on va quasiment arriver à 2 groupes scolaires homogènes sur la commune, la Justice et les Baronnes, avec 8 classes de maternelle à la Justice, 7 aux Baronnes, et puis 12 classes à l'élémentaire Baronne, et 14 classes à la Justice. Donc 2 groupes scolaires à peu près homogènes, important parce qu'on est pratiquement au taquet haut de ce que l'éducation nationale et nos enseignants nous proposent. Et donc ça nous permettra de faire face à l'augmentation de population pendant quelques années. Donc ce groupe scolaire va évidemment tenir compte des dernières innovations. On va avoir des cours oxygène, enfin des cours avec beaucoup de verdure où les enfants pourront jouer, pas des cours uniquement minérales. On aura des possibilités de faire des cours à l'extérieur. On aura un city stade qui permettra aux enfants des Baronnes de profiter d'installations sportives qu'ils n'ont pas aujourd'hui. On aura également pour le quartier des jardins potagers partagés. On aura, on l'espère, une mare à travers la loi sur l'eau. On va essayer de traiter les noues et paysager de façon le coteau de façon la plus qualitative possible. Voilà. Donc une livraison prévue en décembre 2023. Donc il nous faut aller assez vite. Et donc en complément de cette extension du groupe scolaire, nous allons commencer les travaux de la cuisine centrale à l'autre école, à la Justice, au mois de mars, pour une livraison et des repas en décembre 2022. Donc là, cette année, et donc là, c'est pour répondre à la fois à la loi Egalim, hein, vous savez, où on doit mieux vivre et mieux faire vivre nos agriculteurs et mieux faire manger nos enfants. Et donc cette cuisine centrale, donc dont les travaux commencent, répond aussi à, on a fait un référendum il y a quelques mois maintenant auprès des parents d'élèves en leur demandant s'ils étaient favorables à cette cuisine centrale et puis surtout s'ils étaient pas hostiles à l'augmentation du prix. Puisque le pendant d'une cuisine centrale, c'est on fait mieux manger, mais la contrepartie, il y a une contrepartie financière, et il appartenait aux parents de porter une part de l'augmentation des frais de cuisine centrale. Voilà, pour être à peu près complet sur le groupe scolaire. Voilà.
Et puis, un des projets les plus ambitieux de votre programme, c'est la rénovation du parc urbain du Belvédère. Dans quel but ?
Alors, on a eu d'abord une opportunité puisqu'on a eu cette vente de cette grande propriété de 1,5 hectare et ensuite de parcelles limitrophes qui amènent à peu près le projet à 2 hectares. On a aujourd'hui même un projet beaucoup plus ambitieux puisque face à la mairie, un gros propriétaire vend presque 0,5 hectare. Donc, on a vraiment une transformation, un changement radical de la commune à un horizon de 10-15 ans. Et donc, ce parc du Belvédère répond à deux attentes. D'abord, on défend bec et ongles l'idée que Rosny reste un village ou une petite ville. On refuse l'urbanisation à outrance. Là, je vais faire un peu de provocation, mais certains de mes collègues foncent tête baissée dans l'urbanisation. On voit des communes, dont je ne citerai pas le nom, où on construit beaucoup. Bon, je dirais on construit trop, de mon point de vue. Et moi, je pense que les gens viennent habiter dans les petites villes comme les nôtres pour avoir de la qualité de vie, avoir justement une ville à taille humaine, des jardins, du calme. Et donc ce parc du Belvédère répond d'abord à cette demande. Il verrouille jusqu'à maintenant, pendant de nombreuses années, la qualité de vie dans la commune, puisqu'on aura presque 1,5 hectare végétal, d'un parc ouvert au public dans lequel les gens pourront à la fois se promener et jouer. Et puis on aura également donc un petit programme immobilier de Kaufmann Braun, plutôt qualitatif, avec un programme d'accession à la propriété pure, ce qu'on n'a pas fait sur la commune depuis une vingtaine d'années, puisqu'on faisait beaucoup de logements sociaux pour rattraper notre retard sur la loi SRU. Et donc, on porte l'ambition à Rony, voilà, de être à nouveau vertueux, de faire venir des familles un peu différentes, puisqu'avec le logement social, on a fait venir beaucoup de gens voilà, qui avaient des moyens un peu modestes. C'est une bonne chose, hein, ça a entraîné une mixité sur la commune, mais il nous appartient aujourd'hui de rééquilibrer un peu au niveau de l'habitat, et je pense que ce programme immobilier est plutôt une bonne chose. Et puis enfin, on déménage la mairie, voilà, dans le bâtiment historique, de façon à le préserver. Et j'invite BPM à venir lors de l'inauguration voir ce magnifique bâtiment du 19e siècle qui saura, je pense, être mis en valeur. Et la mairie est un lieu de vie pour nos habitants.
Merci beaucoup Pierre-Yves Dumoulin de nous avoir reçus en direct ce matin dans votre mairie de Rosny-sur-Seine.
Je vous remercie, bonne journée.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Merci également à notre réalisateur Robin qui travaille en coulisses. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Juste après la pub, on retrouve votre journal d'information locale à 8h30. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.